Internet, tiens, internaute, voilà, bonjour. Donc, le sujet est choisi par qui? Par moi. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la portée de vos actes? D'accord? Un bon juif qui se respecte, il doit prendre conscience, il doit savoir que tout ce qu'il va faire, tous ces actes qu'il va faire au cours de la journée, au cours de sa vie, auront en réalité une portée, une très grande portée. On a parfois plus, parfois moins, mais lorsque je vais faire quelque chose, je dois prendre conscience que mon acte a une portée. Le Rav Ben Sion Abba Shaoul, bon, par rapport à un passouk dans Haremot, je rentre pas dans les détails, pourquoi est-ce qu'il ramène ça, hein, c'est pas intéressant pour nous. Il parle d'une notion qu'on appelle Chavilot de Mitzvot. C'est quoi Chavilot de Mitzvot? En français, chavilot, c'est un... Non, ça c'est une chavit. Chavit de mitzvot. Chavilot, un lot de mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chavilot de mitzvot? Il y a plusieurs explications. Explication classique, on va dire, c'est que parfois, il y a un acte, une mitzvah ou une avéra, une faute ou un commandement, qui entraîne beaucoup d'autres fautes. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat. Transgresser Shabbat, aujourd'hui, c'est quoi? C'est... Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Mais en réalité, cette transgression que je vais faire, je vais opérer, c'est une transgression qui va entraîner beaucoup, 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 beaucoup de fautes. D'accord? Quelqu'un qui va, moi je ne fais pas Shabbat, alors je vais partir travailler. Pour travailler, il doit prendre la voiture, il va fumer une cigarette, il va allumer la radio, il va entrer dans sa boutique, il va vendre. Donc il va faire plein, plein d'avérotes. Donc une avéra va faire plein, plein d'avérotes. Ou bien, comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui est en marloquette avec quelqu'un. Oui, il va rentrer en dispute avec quelqu'un. Donc non seulement il va transgresser l'interdit de, vous rappelez du verset, ne sois pas comme Korar et son assemblée, mais aussi dans la marloquette, pour faire une bonne marloquette, comme il faut une bonne dispute, comme elle, bien grasse comme il se doit, il faut aussi faire plein de, faire du lachonara, il faut avoir de la haine, il faut de la vengeance, il faut des coups des fois, même jusqu'au meurtre. D'accord? Tout ça. Ça fait une bonne marloquette. Donc, c'est ce qu'on appelle chavilot de mitzvot ou chavilot de averot. Dans un acte que tu vas faire, ça va entraîner avec toi plein, plein, plein de choses. D'accord? Dans les mitzvot aussi, ça marche. Faire un exemple. Par exemple, quelqu'un qui part à la yeshiva étudier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire une mitzvah. Partir à la yeshiva étudier, ça va entraîner plein, plein de choses. Tu vas mieux prier, tu vas mieux te comporter envers ton prochain, tu vas développer ton esprit, tu vas étudier la Torah, tu vas faire plein de choses. Ce qu'on appelle chavilot de mitzvot. D'accord, ça c'est, on va dire, le pshat, le sens officiel de chavilot de mitzvot, chavilot de averot. Maintenant, le Rav Ben Sion, il dit qu'il y a une autre explication à ce que c'est chavilot de mitzvot, chavilot de averot. Et c'est ce qu'on a voulu dire au début, c'est la portée de mes actes.
D'où la première.
On l'apprend d'un passouk dans Haremot, là-bas le Midrash y ramène, pas rentrer dans les détails, c'est pas important pour nous, mais c'est une notion qu'on voit, qu'on trouve dans le Midrash. La portée de nos actes. C'est quoi la portée de nos actes? Parfois, un homme va faire un acte tout simple. Et cet acte-là va entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va raconter une petite histoire. Hein, Père Castor raconte une histoire. Un jour, le... À qui je l'ai raconté cette histoire? Qui l'a raconté? On l'a vu. Le Chefetz Chaim, il était parti, il est parti en voyage avec un de ses amis, un de ses élèves. Et ils sont entrés dans une auberge et ils sont assis comme ça. Donc là, l'aubergiste, femme, elle a vu deux éminents rabbins entrer donc dans l'auberge. Ils ont vu déjà donc l'aubergiste a vu deux éminents rabbins s'asseoir à la table. Elle est venue, bonjour. Voilà, alors qu'on a mangé, machin, chez nous c'est cachère comme il faut, d'accord, très bien, on le sait. Alors qu'est-ce que je vous sers? On sert au plat du jour. Il passe la commande. Et donc la dame, quelques minutes plus tard, elle rapporte les plats. Le Rav Esraïm et l'autre rave donc ont mangé. Après cela, l'aubergiste va voir le Rav Esraïm et le rave. Il dit, alors, comment c'était? C'était bon? C'était bien? Qu'est-ce qu'il dit Rav Esraïm? Sadique. Oula, c'était excellent, magnifique, extraordinaire, vraiment succulent. Merci beaucoup, magnifique. Et elle se tourne vers le deuxième, donc rabbin, et dit alors, et vous, c'était comment c'était? C'était très bien. Bon, peut-être qu'il manquait un petit peu de sel. Et elle s'en va. Et le Refetz Raïm, il entend ça, il commence à, on va pas dire se mettre en colère parce que c'est pas le style du Refetz Raïm, mais il commence à s'emporter. Il dit, comment toute ma vie je me suis préservé de dire la Shonara et d'entendre la Shonara, et maintenant il faut que je vienne ici avec toi pour entendre des choses pareilles. Oh, Chas v'shalom, mais qu'est-ce que tu dis des choses comme ça dans mes oreilles? Et l'élève il dit, mais Gvodarav, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, il dit qu'il manquait un peu de sel. Il dit, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire manquer un peu de sel? Tu te dis toutes les transgressions que tu as fait, non seulement tu as parlé la Shonara, donc la médisance. Deuxièmement, parce que ça faisait, donc tu parles que celle qui l'a préparée, elle l'a même préparée. Donc tu as mal parlé sur elle. Deuxième chose, tu m'as fait à moi écouter la Shonara. Tu as fait écouter à l'aubergine la Shonara. Donc trois choses. Qu'est-ce que tu as fait encore? Maintenant, certainement, la femme qui travaille dans la cuisine, c'est pas l'aubergine, c'est une femme qui travaille dans la cuisine. Cette femme-là, comme c'était la coutume à l'époque, enfin la coutume, l'habitude à l'époque, d'employer des veuves ou des femmes qui avaient des problèmes financiers. D'accord? C'était des travaux un peu chelim, un peu, comment on dit chelim en français? Bon, un peu bas, rabaissant. Et donc là-bas, certainement, c'est une dame comme ça, se trouve c'est une veuve qui a beaucoup d'orphelins. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'aubergiste va venir, elle va commencer à la réprimander. L'autre, qu'est-ce qu'elle va faire pour se défendre? Elle va dire, non, putain, moi j'ai mis du sel. Et donc, elle va mentir. Encore un truc que tu l'as fait transgresser. Et mis à part cela, qu'est-ce qu'elle va dire là? Qu'est-ce qu'elle l'aubergiste, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, comment? Tu dis que moi je suis une menteuse, machin, un truc et tout. Que c'est mes clients qui font, c'est toi la menteuse. Ils vont commencer à se disputer. D'accord? Donc, tu as entraîné une dispute. Là, la cuisinière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à pleurer. Donc, une pauvre veuve que tu vas faire pleurer. Alors l'autre, il dit, eh, quoi, vous exagérez un petit peu, ça va, je lui dis un petit mot, vous l'avez rendu mélodrame, l'histoire. Il dit, ah oui, tu crois vraiment mélodrame? Viens, 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 on va dans la cuisine, tout de suite, on va voir ce qui va se passer dans la cuisine. Les deux, ils se lèvent, ils rentrent dans la cuisine, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient mettre l'aubergiste en train de crier sur la pauvre veuve, qui était en train de pleurer par rapport au sel, machin, entre une dispute entre les deux. Et là, l'élève, il entend ça, il arrête, il s'en supplie, arrêtez-vous, non, pardonnez-la, excusez-la, moi, je vous paye de l'argent, gardez-la, je retire ce que j'ai dit, pardon, pardon, pardon. Jusqu'à la fin, l'aubergiste, elle a dit, bon, de toute façon, je voulais juste lui faire peur, je voulais pas le renvoyer, mais bon, hein, faut qu'elle... Et le réfet, il a dit, tu vois, exactement, tu crois que tu dis une chose comme ça, est-ce que tu crois que ça n'a pas de répercussion? Donc là, on apprend que nos actions, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de répercussions. Faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Bon, faut pas non plus avoir très peur, faut pas. Mais ça a beaucoup de répercussions. On va prendre une autre histoire avec Rabbi Yaakov Kamenetsky. Vous avez parlé de Rabbi Yaakov Kamenetsky? Rabbi Yaakov Kamenetsky, c'était un des grands Rosh Yeshiva en Amérique. Aucun rapport avec le Rabbi Kamenetsky, absolument aucun rapport. Rabbi Yaakov Kamenetsky, c'est un. Bon, c'était un. Un ami du Rav, m'a dit, un ami, c'est un peu dur de dire, mais du Rabbi Moshe Feinstein. Il a construit là-bas. Il y avait trois grands rabbins aux États-Unis. Rabbi Yaakov Kamenetsky. Enfin, il y avait plus, bon, trois gros titres, on va dire. Rabbi Yaakov Kamenetsky. Il y avait le Rav Moshe Feinstein. Et il y avait le Rav Aaron Kotler. D'accord? C'est les trois qui ont construit le monde des yeshivot aux États-Unis. En tout cas, Rabbi Yaakov Kamenetsky, c'était un très gros. Je ne parle pas des chassidim, je parle des litaïm, des yeshivot. Non, on n'est pas. Il y a d'autres rabbinim, vous prêchez, mais plein. D'admourim et des rabbinim, plein. En tout cas, Rabbi Yaakov Kamenetsky, quand il venait de se marier, il était en voyage avec sa femme vers Slabodka. Slabodka, bah, c'était une grande yeshiva en Lituanie. Et il faisait très très froid, il y avait une tempête. Ils sont entrés dans un petit village et il fallait qu'ils s'abritent. Ils ont demandé donc à un indigène, où est-ce qu'on pourrait s'abriter? Est-ce qu'il y a des juifs dans la ville? Il dit, oui, il y a un juif qui habite là-bas, au fond de la rue. Au bout de la rue. Et donc il marche avec sa femme, comme ça, sous la tempête, le froid. Et là, il arrive devant donc, le portail, il commence à taper à la porte. Et le type, il regarde comme ça par la fenêtre, et il voit deux juifs. Et il dit, ouvre-nous la fenêtre, commence à crier. Et le type, il dit, non, je veux pas, allez-vous-en, je vous ouvre pas. Il est choqué, il me dit, mais ouvre-nous, on a froid, on a un truc, ma femme, elle est pas bien, elle est très très froid. La femme du rab a été très, très, comment dire, elle est très très froid. Et il ne veut pas ouvrir, il ne veut pas ouvrir, il ne veut pas ouvrir. Il a insisté, 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 insisté. À la fin, il a accepté de le laisser rentrer sous un petit truc, quoi, mais pas dans la maison. Bon, il a laissé. La tempête est passée et ils sont repartis pour Slabodka. C'était la période de Rosh Hashanah Yom Kippour. Et lorsqu'il est arrivé à la yeshiva là-bas, il a vu qu'à Rosh Hashanah, le Rosh Yeshiva avait invité cet homme-là, donc ce riche... ce riche commerçant juif qui n'a pas voulu le laisser entrer, il l'avait invité à monter la Torah. Le rav voit ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il laisse monter celui-là? Il va le Rosh Shiva. Il dit, mais qu'est-ce que vous laissez monter cet homme-là? Sachez que c'est un homme qui n'est pas cédère, que nous, moi et ma femme, ma femme était dans une situation de piquoir nefesh, de danger de mort, elle a failli mourir de froid. Il n'a pas voulu nous ouvrir la porte, il nous a laissé crever dehors. Et le rav, il a dit, calme-toi, après je t'expliquerai, t'inquiète pas, c'est pas comme ce que tu crois, c'est un homme bien, je t'expliquerai après. Il a fait monter la Torah, bon. Après la tuila, le rav, il s'approche du rav, il dit, nous, alors qui c'est cet homme-là? Il dit, cet homme-là, c'est un homme très très bien, c'est un homme très gentil, c'est un Baal Chesed, vraiment un monsieur de grande qualité. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? La veille, il a fait rentrer chez lui des gens, oui, et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils l'ont dépouillé, ils ont dépouillé sa maison, ils lui ont volé son argenterie, son argent, plein de choses, ils ont dépouillé sa maison. Et quand il les a vus, il a dit, purée, je leur ai fait du recette, je leur ai fait du bien, ces gens-là, ils sont venus, ils m'ont volé. Il était encore sous les coups de la rage. Et vous, vous êtes arrivé le lendemain. Donc lorsqu'il vous a vu, il ne pouvait pas vous laisser entrer, il avait la rage de ce qu'on lui avait fait. Ouais. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, c'est un homme bien, il était sous le coup de la colère. L'histoire reste arrête là. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est une histoire qui est terrifiante. Parce que ce voleur-là, après 120 ans, enfin, je sais pas s'il avait vécu 120 ans celui-là, mais après finir sa vie, il va monter devant le tribunal céleste. Et devant le tribunal céleste, on va pas dire comme ça. Imaginez-vous que la femme de Rabbi Yaakov Kaminetsky, Bémet, elle serait morte de froid. Elle serait morte de froid. Donc le voleur, quand il arrive devant le tribunal céleste, on va lui dire, bon ok, alors voilà, donc tu as volé, tu as fait ci, donc tu es aussi coupable de meurtre, tu es coupable de... Eh ben, toute une liste, oh, c'est fou quoi, moi de meurtre, j'ai tué, jamais tué personne. Il dit, si, tu as tué la femme d'un rabbin, rabbin Kaminetsky. Il dit, mais je le connais même pas, je sais même pas qui c'est. Alors on va lui raconter l'histoire. Le fait que tu as volé chez la personne... La veille, ça a entraîné que cette personne n'a pas voulu ouvrir sa porte, et ça a entraîné que la femme, elle est morte, ça a entraîné, etc., etc., etc. Et on va lui... Oh, là, attends. Il avait le choix, certainement, que la personne qui n'a pas ouvert la porte, elle a son lot de fautes. Elle sera jugée pour ça, et elle paiera peut-être pour ça, certainement. Mais qui c'est qui a entraîné ça? C'est la personne qui a volé la veille. Maintenant, plus que ça, le rave là-bas, il fait un compte terrifiant. Ah, les actes, ça peut entraîner. Il fait un compte terrifiant. Il dit, imaginez-vous que la femme, même elle serait morte. Rabbi Yaakov Kaminetsky, il est devenu un grand Rosh Yeshiva avec des milliers et milliers d'élèves. D'accord? Grâce à qui? Peut-être, c'est sûr, en grande partie grâce à sa femme. Sauf sa femme, celle qui l'a aidé dans toute sa vie. Ça se trouve que si sa femme avait été décédée, il serait marié avec une autre dame qui l'aurait peut-être pas aidé autant qu'elle, elle l'a aidé. Et qui serait, donc cet homme-là ne serait jamais devenu le Rosh Yeshiva qu'il est devenu. Et il n'aurait jamais eu tous les élèves qu'il a eu. Et les élèves n'auraient pas eu les élèves qu'ils ont eu. Et on aurait peut-être perdu ici vraiment une partie de la communauté juive. On aurait une partie d'Amérique. Va savoir qu'est-ce que ça entraînait. Tous les livres qu'il a écrits, peut-être qu'ils n'auraient pas pu les écrire. Va savoir que un acte qu'on fait, qu'est-ce que ça peut entraîner?
Ça rentre dans les calculs
d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr. Mais, qui était le, comme le Rav Shai a parlé la dernière fois, qui a été l'instrument d'Akash Bor? Ne sois pas l'instrument d'Hachem dans le mal. Il reproche quelque chose qu'il a voulu. C'est une bonne question que tu poses. Il faudrait faire toute une introduction pour... Mais le Rav Shai a parlé de ça la dernière fois, donc je vais reparler de ça. Non, je... Il y a un plan divin. T'as raison, il y a un plan divin. Et Hachem, il doit diriger ce plan divin. Qui vont être les acteurs de ce plan divin? Il y a dans un film, il y a les gentils, il y a les méchants. Qui vont être les gentils? Qui vont être les méchants? Ouais. Alors, juste pour expliquer autrement, on est maintenant dans les parachutes de Bereshit, de Shemot, pardon. La question qu'on pose, pourquoi est-ce que Pharaon s'est vu punir? On a puni Pharaon. Pourquoi est-ce qu'on a frappé de 10 plaies? Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Pharaon, il aurait pu aller voir Hachem. Il dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi, je n'ai fait que accomplir ta volonté. Toi-même, tu as dit à Abraham que sa descendance serait esclave sur une terre qui ne serait pas la sienne. D'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ta volonté. Alors, pourquoi est-ce que moi, tu me punis? Alors, à cette question-là, il y a plusieurs réponses. Une des réponses, bon, gentil comme ça, c'est qu'il a été un peu trop zélé. T'as exagéré un petit peu dans la punition. Ça, c'est une réponse. Il y a une autre réponse, il y a deux autres réponses essentielles. D'abord, je vous dis la troisième, que j'ai l'habitude de dire. C'est une réponse extraordinaire, en réalité, parce que ça nous change les perspectives de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est même lié à nos... Comment on appelle le titre, du coup, vous savez ? La teneur de nos actions. C'est que... la portée de nos actions. C'est que Pharaon, en réalité, pourquoi est-ce que il a été puni ? C'est vrai que toi, tu as fait ma volonté en asservissant le peuple juif. Seulement, tu ne l'as pas fait dans l'intention d'asservir le peuple juif. Il y a une notion qui s'appelle mitzvot srichot kavana. C'est quoi mitzvot srichot kavana ? Les mitzvot, quand je fais une mitzvah, je dois avoir l'intention de faire la mitzvah. Par exemple, si je prends des tefilines, c'est un exemple très très ridicule, mais je prends les tefilines et je commence maintenant à serrer comme ça là, avec la bande des tefilines. Pas pour mettre les tefilines, non, j'ai pas l'intention de mettre les tefilines. Je veux me faire un garrot pour me faire une piqûre. C'est des fois pour faire une prise de sang, on te fait un garrot avec les lances comme ça. Est-ce que cet homme-là, il a fait la mitzvah d'avoir mis les tefilines ? Non, pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas l'intention de mettre les tefilines. Je prends une pièce, et je la jette. Et paf, elle tombe en Nusdaka. Oh, sympa, incroyable. Est-ce que j'ai fait la mitzvah de faire la tzedaka? Non, pourquoi? T'as pas eu l'intention de faire la mitzvah ici. Les mitzvot, on a besoin de l'intention de les faire. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'avant de mettre les tefilines, avant de... Toutes les mitzvot des tzitzit, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ouais. C'est exactement ça que ça sert, les Shem Yehud Shaberhu. Au début, avant on dit les Shem Yehud, avant chaque mitzvah, afin de dévoiler que maintenant, nous avons l'intention de faire la mitzvah, comme Hachem nous l'a ordonné, etc. Maintenant, Pharaon, pourquoi est-ce qu'on va lui reprocher on va le frapper? Parce que tout comme lui, il y avait une mitzvah ici à faire. Il y avait la mitzvah d'asservir les juifs. Mais lui, est-ce qu'il a fait ça dans l'intention de faire la mitzvah? Pas du tout. Il avait l'intention de, comment dire, d'assouvir ses désirs sadiques qu'il avait, c'est tout. Pas de sadique, sadique. Il faisait pas ça dans un but sadique, mais dans un but vraiment pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que tous les matins, imaginez où Pharaon, il se lève, il fait les Shem, Yahoud, Koutchaberhu, maintenant, j'ai l'intention de faire la volonté d'Hachem et de servir le peuple juif. Eh ben, ça aurait pu être un sadique, ça aurait été un sadique. Et il aurait certainement reçu un salaire pour avoir fait une chose pareille. Je dis certainement parce que bon, c'est pas... Oui? Parce que ici, ce qui est important, c'est la kavana. En réalité, cette chose-là, elle a une portée extraordinaire. Par exemple, vous prenez un chauffeur de bus. Si tu demandes à un chauffeur de bus, on va dire en Israël, pourquoi est-ce que tu es chauffeur de bus? Qu'est-ce qu'il va te dire? Écoute, bon, chauffeur de bus ou autre chose, hein, c'est pareil. Moi, je fais ça parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Et voilà, alors on paye quand je conduis un bus. Tout simplement, ouais, je travaille, je suis chauffeur de bus. C'est uniquement pour ça que tu es chauffeur de bus? Ouais, c'est uniquement pour ça. Quel sera son salaire à cet homme-là? Le salaire qu'un chauffeur de bus doit recevoir. Mais si le chauffeur de bus, il écoute, c'est vrai que je fais ça pour gagner ma vie. Mais aussi, je fais ça, c'est pourquoi? Je fais ça pour servir mon peuple. Le matin, quand je prends mon bus, j'ai l'intention, la kavana, l'intention de voir, tu vois, les petits juifs là qui montent dans le bus pour aller au Talmud Torah. Alors, Bezrat Hashem, je vais aider ces petits juifs à aller au Talmud Torah. Je vais aider tous ces étudiants Torah à aller à la yeshiva. Je vais aider tous ces pères de famille et ces mères de famille d'aller à leur travail en bonne santé, en forme, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, dans chacune de ces actions qu'il va faire, s'il met dans toutes ces choses-là, dans toutes ces actions-là, une bonne intention, l'intention d'aider les autres, alors non seulement il recevra son salaire à la fin du mois, mais plus que ça, il va aussi recevoir un salaire spirituel de tout ce qu'il va faire. Aujourd'hui, maintenant, conduisant son bus, c'est pas un simple bus, c'est un tank de mitzvot. C'est un tank de... Il y a une petite histoire au passage, il y avait un jour un chauffeur de... Comment ça s'appelle? Ramachat scolaire. Il est parti voir un Talmud Torah, il est parti voir un rav, hein, il en a marre de ce qu'il fait, tout ça, il sent pas important dans ce qu'il fait. Et le rav lui a dit, mais t'es fou quoi? Chaque petit juif là maintenant que tu es en train de transporter, d'accord, ce sont des Sefer Torah ambulants. Demain ça peut devenir les grands de la génération, même sans devenir les grands, ça peut devenir des érudits, Talmid Chacham. En réalité, chaque petit juif que tu transportes, c'est un Sefer Torah. Ton camion, c'est pas un camion, c'est un Aaron à Kodesh, un Aaron Kodesh, c'est un, comment dire, Aaron Kodesh, c'est un Echal, où on met les Sefer Torah. Et tous les matins, quand il a entendu ça, ça lui a donné du réchec. Il prenait, il voyait les petits-enfants, bonjour, les petits Sefer Torah, allez, on démarre le Aaron Kodesh. Celui qui voit la vie, s'il voit ses actions de cette façon-là, mais sa vie, elle prend des dimensions différentes. Toujours, je dis aux soldats, hein, quand ils sont dans la cuisine, à leur laver les casseroles, là, plein, ils me disent, ah, qu'est-ce qu'on fait ici? On lave des casseroles, des trucs, on est marre. C'est ça l'armée, c'est ça les trucs. Moi, je suis pas venu pour ça. Je leur dis, mais t'es fou, quoi. Si maintenant, en train de laver tes casseroles, tu as l'intention que grâce maintenant aux casseroles que je vais laver, on va faire cuire à manger pour les soldats, pour que les soldats puissent être en forme et puissent maintenant bien défendre le pays et arrêter tous les terroristes. Mais trop bon, tu fais partie de la chaîne de celui qui va attraper le terroriste, que lui qui va défendre les, comment ça s'appelle, la terre d'Israël. D'accord? Donc en réalité, celui qui met de l'intention, une bonne intention dans ses actions, elles prennent des proportions extraordinaires. Extraordinaires, extraordinaires. Attendez, avant l'autre raison, juste aussi, une fois le Rav Elbaz, vous connaissez Rav Elbaz? Rav Elbaz, c'est un des grands martyrs Bitchouva, hein, qui fait beaucoup, qui ramène beaucoup les gens à la Torah. Un jour, il était dans une réunion, on lui a dit, ah toi, Rav Elbaz, t'as du mérite, toi, tu ramènes les gens à la Torah, hein, t'es pas comme ceux qui sont dans les chivotes en train d'étudier comme ça, enfermés. Il a dit, mais vous êtes fou, quoi, mais pas du tout. Il dit, quand, machal, les mad parabole, à quoi la chose ressemble? Un jour, il y avait un incendie. Donc, il y avait les pompiers qui sont venus. Il y a un qui est venu avec sa lance, il était en train d'éteindre le feu. Et il a éteint le feu. Et tout le monde, ah bravo, quel grand pompier. Qu'est-ce qu'il dit le pompier? Il dit, c'est moi, c'est pas moi. C'est les autres derrière qui sont en train de pomper l'eau. Donc en réalité, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis, même si je suis la dernière, dernier marron de la chaîne, si je peux aujourd'hui faire quelque chose, c'est uniquement parce que les autres derrière m'ont donné du mérite. D'accord? Bon, c'est pas réellement lié, mais c'est joli. Ça, c'est la deuxième raison qu'on a dit, la troisième raison pourquoi Pharaon va être puni. Maintenant, la deuxième raison, en réalité, Akadosh Baruch Hu, quand il veut faire du mal, qui c'est qui va employer? Un homme méchant. Remarquez que En Megalgelim Chov et là il y a des Chayav. Ve'en Megalgelim Srout et là il y a des Zakai. 30 fois on a répété ça. Hachem, il ne fait pas faire le mal. Il ne fait faire le mal que par quelqu'un de non méritant. Et il fait faire le bien que par quelqu'un de méritant. C'est-à-dire quelqu'un qui maintenant qui doit recevoir un bien. Qui va être choisi pour lui donner ce bien? Qui Hachem va choisir? Qui Hachem va choisir? Une personne méritante, un type bien. C'est que les types bien qui font des choses bien. Maintenant, quelqu'un, il doit faire du mal. Qui va être... Enfin, on doit faire du mal. Un homme doit recevoir du mal. Qui va être choisi pour appuyer sur la gâchette pour tuer la personne? Quelqu'un de non méritant. D'accord? Maintenant, en réalité... Alors, pourquoi Pharaon a été puni? Parce que, sauf, c'est ce qu'il voulait. Hachem, il voulait que leur âme Israël soit asservie. Alors, pourquoi c'est lui qu'on va punir? Alors, il y en a qui expliquent qu'il n'a pas été puni parce qu'il a fait du mal aux Juifs. Non, il a été puni parce qu'il a été choisi pour faire du mal aux Juifs. Tu entends? Ça répond à ta question ou pas? Donc en réalité, ce qu'on va te reprocher, c'est pas d'avoir fait la faute, c'est pourquoi tu as été choisi pour faire la faute. Donc on a parlé des chavilot, donc les actions qu'on fait, ils ont des répercussions en réalité extraordinaires et terrifiantes. Ça, c'est par rapport aux Averot. Donc l'histoire, on avait raconté aussi par rapport aux mitzvot. Des fois, les hommes, ils font une action et ça entraîne des mérites extraordinaires. Donc l'histoire qu'on avait racontée, c'était Amnon Yitzhak. Vous entendez parler d'Amnon Yitzhak, ouais. Amnon Yitzhak, c'est quelqu'un, Baruch HaShem, qui a fait faire tshuva à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Maintenant, lui-même, il raconte qu'il a fait tshuva. Comment est-ce que lui, il a fait tshuva? Il raconte qu'un jour, il était assis dans son canapé et il a levé la tête. Et qu'est-ce qu'il a vu? En haut de la bibliothèque, il a vu des livres, il s'est levé comme ça, comme un lion. Et il a pris des livres et il a crié, mais qui sont les insolents qui ont osé m'offrir des livres à la bar mitzvah? Donc c'était des livres qu'il avait reçus à la bar mitzvah. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On offre des livres à la bar mitzvah, franchement. À la bar mitzvah, on offre de l'argent, on offre des Walkman, on offre des ordinateurs, mais des livres. Top, il a vu le premier livre. Qu'est-ce qu'il a marqué sur le premier livre? Shulchan Aruch. En hébreu, ça veut dire table dressée. Bon, c'est un livre de loi, mais tel que c'est écrit. Il a dit quoi? Quelqu'un il m'a offert un livre de cuisine, Shulchan Aruch. Il a ouvert le livre. Sur quoi il est tombé? C'est sur quoi il est tombé? Les lois qui concernent le Amen. Comment est-ce qu'on doit répondre Amen, tout ça? Donc lui, ça lui arrivait parfois d'aller à la synagogue. Il a vu Amen comme ci, Amen comme ça. Il dit, ah, c'est intéressant. Il a commencé à lire. Et il a lu, il a lu, il a lu, il a lu. Il a dévoré le livre. Il y avait un autre livre, c'était Sefer HaChinuch, où là-bas où on expliquait les mitzvot. Et là aussi, il a dévoré. Et là, à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir une révélation. Voilà, une révélation, c'est moche. Non, c'est bien après. 19, 20 ans, quand il avait. En tout cas, il a fait tshuva. Et bah, Ukhajem, il est parti à la yeshiva, il a commencé à étudier. Et c'est devenu qu'il est devenu. Et lui-même, il a fait faire tshuva à des milliers de personnes. Maintenant, revenons en arrière. Imaginez le mérite du bonhomme qui lui a acheté le livre. Toutes les mitzvot, tous les gens qu'il va ramener à la tshuva, hein, grâce à qui? Grâce à toi. Grâce à toi, un jour que tu as eu une bonne intention, et donc que tu as été parti acheter un livre avec une bonne intention, regarde tout ce que ça a entraîné. Oui, et donc, en réalité, donc, la portée de nos actes est très très importante. Il faut faire très très attention à tout ce qu'on fait. Parfois, un sourire, ça peut construire des mondes. Des fois, comme ça peut détruire des mondes. Et plus que ça, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué dernièrement, c'est que vous introspectez-vous, que les décisions importantes, d'accord, que vous avez prises dans votre vie, très souvent, elles proviennent d'une petite chose que vous avez entendue ou d'une petite chose que vous avez vue. Des fois, c'est un tout petit truc. Des fois, j'ai ouvert un livre comme ça, j'ai vu une phrase. Cette phrase-là, elle m'a ébranlé. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre une nouvelle direction dans ma vie. D'accord? Des fois, tu entends des cours et tu entends toutes sortes de choses. Le livre entier, ça ne te fait rien du tout. Des fois, un petit comportement, un petit truc. Ouais, on va compter des... Pourquoi? Je ne sais pas. On peut dire, je ne peux pas dire je ne sais pas. Il y avait ici, la personne avait un certain mérite que par elle, ou un démérite, que par elle devait passer l'éveil de cette personne. Tu as été choisi que grâce à toi, la personne va se réveiller. Mais non, pourquoi c'est un petit peu, je ne sais pas. Mais c'est comme ça, c'est une réalité. Et ça, il faut faire très très attention. Parce que des fois, un petit acte qu'on fait, une petite bêtise qu'on fait, ça peut en réalité des fois entraîner des catastrophes. De ne pas dire, oh ça va, c'est rien. Il n'y a pas de c'est rien. Tout est quelque chose. Il n'y a pas de c'est rien. Juste pour terminer, où est-ce qu'on voit réellement l'application de ça? C'est par rapport au prêt d'argent. Quand tu vas demander de l'argent à quelqu'un qui te prête de l'argent, tu as besoin d'argent, tu vas demander qui te prête. Les gens aujourd'hui, peut-être depuis toujours, on est toujours réticents à prêter de l'argent. La première fois, on prête. Pourquoi la deuxième fois, on est plus réticent de prêter? Parce que la première fois, c'est mal passé. C'est quoi, c'est mal passé? Je lui ai prêté, il m'a pas rendu en temps qu'il fallait. Il m'a pas rendu la somme que je lui ai prêté. Il m'a fait des histoires, il s'est disputé, il m'a machin. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dégoûté de prêter de l'argent. Ça, c'est un truc qu'on voit très très souvent. Que aujourd'hui, par exemple, avant il y avait, il y a beaucoup de banques de prêts qui prêtent de l'argent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un prêt qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui rendent pas leur argent, qui rendent pas leur dette en temps et en heure. Donc le type qui rend pas son argent, il dit « Oh, ça va, hein, c'est rien. » Mais c'est pas rien. Tu sais ce que ça va entraîner? Ça se trouve que demain, ben, mettre une personne qui aura réellement besoin d'argent va venir réclamer, va venir demander à cette personne-là, elle va se voir fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'un jour, toi, tu as été feignant de ne pas le lui rendre. Bon, ça, c'est une application de portée de nos actes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment très violemment. Moi, personnellement aussi, on m'a malheureusement, ça m'est arrivé qu'on m'a planté, comme ça on dit. Et bon, je suis maintenant réticent par rapport à certaines choses. C'est malheureux, on doit se travailler pour enlever ça de nous. Mais malgré nous, c'est ancré en nous. Et donc, faisons très très attention à nos actes. Maintenant, juste pour ajouter encore un petit truc, dans une synagogue des fois aussi, je parle pendant la prière, où je me comporte mal dans la prière. Quelqu'un, il rentre dans la synagogue, il voit maintenant deux religieux mal se comporter. Ça y est, pour lui, c'est fini. Les religieux, c'est des comme ci, des comme ça. C'est pas vrai, on n'est pas comme ça, on est des gens bien. Oui, mais t'as fait un acte, tu sais pas la portée qu'il peut avoir ton acte. Bon, alors, ne vivons pas avec l'angoisse. Mais malgré tout, faisons attention à ce qu'on fait, et que nos actions ne sont pas efker. Des gens nous regardent, nous observent, et Bezrat Hashem, très bon.